Ouch. La re. Ouch. La re re. Ouch. Ouch. Ouch.
Bonjour à toutes et à tous. Suite à la victoire l'an dernier de la chanteuse israélienne Netta Barzilai à l'Eurovision avec la chanson Toy, cette année c'est au tour d'Israël d'accueillir cette compétition. Elle se tiendra à Tel Aviv. Les 14 et 16 mai auront lieu les demi-finales et le 18 mai la grande finale pour laquelle la France d'ailleurs est déjà qualifiée d'office. Tout devrait bien se passer et des milliers de touristes devraient affluer à cet événement en dépit des appels habituels au boycott et des menaces des activistes du Hamas. Cette semaine, le journal 20 minutes a eu la bonne idée de consacrer un dossier de plusieurs jours à l'Eurovision qu'Israël, saviez-vous, a remporté 4 fois. Un petit retour en arrière s'impose. Débutons en 1978, nous sommes au Palais des Congrès de Paris. La soirée est déjà bien avancée quand le jury suédois finit d'annoncer ses points, signant le dénouement de la finale de l'Eurovision. Solennel, la voix de Léon Zitrone, qui coanime l'événement avec Denise Fabre, se fait entendre. Mesdames et messieurs, le concours est fini. C'est Israël qui gagne avec 157 points. Pas de pluie de confettis ni de musique assourdissante, car à l'époque, c'est encore la retenue qui prévaut. Sobriété également pour les vainqueurs, Itzhar Cohen et les Alpha Beta, tous vêtus de blanc, qui prennent le temps d'arriver des coulisses pour recevoir leur médaille des mains de Marie Myriam, gagnante de l'édition précédente, puis chanter à nouveau le morceau qui leur a permis de l'emporter, Abanimi. La chef de délégation israélienne reconnaîtra plus tard que ce triomphe était pour elle des plus inattendus. Elle n'était absolument pas fan de la chanson qui, selon elle, avait remporté sa sélection nationale uniquement parce que les autres propositions étaient désastreuses. La victoire n'en fut que plus savoureuse. C'était une joie immense. Tout le pays était euphorique, nous explique Alon Amir, ex-chef du service presse de la délégation israélienne de l'Eurovision. À l'époque, gagner le concours, c'était quelque chose de particulièrement fort. C'était un grand moment de fierté. L'État hébreu, qui s'est engagé pour la première fois à l'Eurovision en 73, n'aura donc mis que 6 éditions pour remporter le trophée. Ses précédentes tentatives étaient d'ailleurs loin d'être honteuses, puisqu'il n'avait pas fait moins bien qu'une 11e place. À l'époque, Israël ne se serait sans doute pas douté que, des décennies plus tard, sa participation au concours musical serait encore remise en cause. La faute à l'idée reçue que seuls les États situés sur le continent européen auraient le droit d'entrer en lice. Or, l'Eurovision est ouvert à tous les membres actifs de l'Union européenne de radio-télévision, l'UER, qui chapeaute l'organisation, et ceux-ci sont situés aussi bien en Europe qu'en Afrique du Nord, en Asie ou au Proche-Orient. Bien que l'Eurovision soit avant tout un divertissement, la géopolitique n'est jamais très loin, mais elle se manifeste de manière pouvant confiner d'ailleurs à l'absurde. Quand la victoire israélienne se profila lors de l'annonce des points, la télévision jordanienne, qui retransmettait le concours, interrompit le direct en prétextant des soucis techniques. Les téléspectateurs virent alors un plan fixe sur un bouquet de jonquilles sur leur écran. Le lendemain, toujours en Jordanie, les médias font dans le fake news en titrant sur l'Eurovision rapportée par la Belgique, qui en réalité a fini à la 2e place. En France, on n'en aura pas tout à fait fini d'entendre Abanibi, chanson au refrain faisant référence à un jeu de mots enfantin, car elle sera reprise peu de temps après par la célèbre chanteuse Rika Zaraï. Itzhar Cohen, lui, est devenu une star dans son pays. Selon Alon Amir, il a eu une grande carrière, il se produit toujours et reste très réputé, très connu. On le connaît tous, tout le monde l'aime. Le chanteur a ensuite représenté l'Israël à l'Eurovision en 1985, où il a fini 5e, et cette année, le soir de la finale, c'est lui qui annoncera les points du jury israélien. Partons maintenant à l'année suivante, en 79, et rebelote, Israël remet ça à Jérusalem. Alléluia, interprété par Gali Attari et les Milk and Honey, triomphe. Pour l'État hébreu, organiser le concours représentait un défi. Personne ne pensait qu'on pouvait le faire, poursuit Alon Amir. La télévision a dû s'adapter. L'événement a été le tout premier à être diffusé en couleur dans le pays. Côté géopolitique toujours, mise sous pression par ses pays voisins, la Turquie, qui avait pourtant désigné son candidat, s'était retirée à la dernière minute. Et surtout, cette finale s'est déroulée 5 jours après la signature du traité de paix israélo-égyptien. Un accord qui marqua notamment la reconnaissance par l'Égypte de l'existence d'Israël et la démilitarisation de la péninsule du Sinaï. Le message pacifique d'Alléluia résonnait particulièrement avec cet événement historique. Les mots étaient les suivants. La colombe va se poser pour toujours sur l'olivier où les champs de bataille seront des champs de blé. Alléluia pour demain, Alléluia la main dans la main. Clament les paroles de ces chansons, de cette chanson. Toujours selon Alon Amir, le contexte d'alors était plein d'optimisme. Alléluia était un peu un deuxième hymne national. Mais la preuve, en 2017, la chanson a été choisie pour les célébrations du 70e anniversaire de la création d'Israël. Un couplet à la gloire d'Israël a d'ailleurs été ajouté pour l'occasion. Selon Haaretz, Alléluia, fort de plus de 200 reprises, est le morceau israélien qui a remporté le plus grand succès sur le plan international. Ce succès aura cependant un bémol. L'organisation de l'Eurovision, ajoutée au coût de la couverture du sommet de Camp David et du traité israélo-égyptien, a coûté très cher à la télévision israélienne qui n'a pas été en mesure de financer l'édition suivante. Les Pays-Bas ont fini par se porter volontaires pour accueillir l'Eurovision 1980, auquel Israël n'a pas participé. La raison était que la finale se tenait le jour du Yom HaZikaron, le jour du souvenir pour les victimes de guerre. L'État hébreu n'a donc pas pu tenter la passe de Troie. Enfin, il faudra attendre 1998 pour voir Israël remporter une troisième fois le concours. C'était la victoire d'une icône, Dana International. Avec sa chanson Diva, qui a remporté l'Eurovision 98 sur le fil, c'est-à-dire avec 7 petits points d'avance sur sa dauphine maltaise, eh bien, Dana a assurément marqué l'histoire de ce concours. Lorsque l'artiste israélienne arriva à Birmingham, au Royaume-Uni, où se tenait cette édition, elle fut placée sous haute protection. Qu'une femme trans participe à l'événement et représente Israël lui valut de vives critiques des juifs orthodoxes et des menaces de mort. Même sa robe, créée par Jean-Paul Gaultier, disposait d'ailleurs d'un garde du corps. Pourtant, la chanteuse, dont la carrière commença en 92, était extrêmement populaire en Israël, rappelle Alon Amir, qui ajoute « Beaucoup pensaient que parce qu'elle était trans, il lui serait difficile de gagner. Ils ne comprenaient pas que son histoire avait captivé l'attention de l'Europe. Sa victoire n'est pas due seulement à sa chanson, mais aussi à son profil, à sa personnalité. » Le triomphe de Dana International fait taire un temps ses détracteurs les plus acharnés. Les voix conservatrices, du côté des politiques comme des religieux, se feront entendre l'année suivante lorsque Israël organisera l'édition 99. Hors de question pour eux de se réjouir d'accueillir, qui plus est à Jérusalem, un concours remporté par une compatriote trans. Mais en attendant, c'est une vague de bonheur qui inonda le pays. Ce n'était pas qu'une simple victoire à un concours musical. Cela a fait évoluer les choses en Israël, reprend l'ancien membre de la délégation israélienne. L'opinion publique a commencé à être de plus en plus favorable aux personnes LGBT en prenant conscience qu'elle pouvait apporter beaucoup d'honneur au pays. Dana a été une pionnière. Elle a fait beaucoup de choses qui à l'époque étaient controversées. Elle a fait ce qu'elle avait à faire et elle l'a bien fait. Dana participera à nouveau à l'Eurovision en 2011, toujours sous la bannière israélienne, mais cette fois avec moins de succès puisqu'elle a été éliminée lors des demi-finales. Qu'importe. Puisque pour cette Eurovision 2019 qui se tiendra à Tel Aviv, elle aura l'honneur d'ouvrir la finale le 18 mai en chantant un medley incluant bien évidemment Diva.
Avani